RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On vient de parler pendant une heure de la place de l'animal dans notre société au vu de l'actualité. On va continuer jusqu'à 11h en parlant surtout de la protection des animaux. On va aussi lutter contre l'abandon des animaux. C'est tout un programme. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Venez nous parler de la protection animale. Dites-nous si vous êtes engagé dans une association. Venez aussi nous parler de votre amour pour les animaux, du lien peut-être particulier que vous avez avec eux. On vous attend au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense, donc j'agis, on y va.
Je pense, donc j'agis, 04 72 38 20 23.
On vous emmènera également à côté de Nantes, dans la commune de Vertoux, où avait lieu hier la présentation du résultat de la restauration d'un ensemble atypique des sarcophages mérovingiens en calcaire de Poitou. On agira pour sauver le patrimoine à 10h55 en compagnie de Jacques de Chauvelin. Mais pour nous accompagner pendant une heure, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Bonjour Céline Gardel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Je pense donc j'agis. Vous êtes capitaine de police, ça c'est une première chose, mais vous êtes également la présidente d'une association basée à Toulouse qui s'appelle les 4 Patounes. Céline Gardel, comment une capitaine de police, la capitaine de police que vous êtes, a décidé de créer cette association, les 4 Patounes ?
Oui, alors d'abord merci beaucoup de m'accueillir sur votre émission. Alors les 4 Patounes ont soufflé leurs 3 bougies en mai dernier, donc une association toute jeune mais très dynamique puisqu'aujourd'hui nous rayonnons au niveau national. Et c'était tout simplement en faisant le constat et le bilan de voir des associations par moments démunies devant des choses très graves, très glauques et qui pour nous constituent des infractions. Ce sont des contraventions, des délits et donc à mon sens c'était évident que les forces de l'ordre avaient toute leur place.
Ben voilà l'histoire des 4 Patounes. Bonjour Christophe Dumont-Richet.
Bonjour Melchior.
Merci d'être avec nous. Merci sur RCF. Vous êtes responsable d'un refuge de la SPA, le refuge de Marennes-Lyon. Donc c'est situé en Isère.
C'est dans le Rhône.
Dans le Rhône.
C'est à côté de la ville de Corbas.
Voilà. C'est pas très loin du centre-ville de Lyon.
C'est ça.
J'ai pas envie de vous parler de l'actualité autour de la maltraitance animale parce que c'est des informations qui sont pas agréables à écouter ni à lire. Je passerai tout ce qui se passe autour des chiots. On va pas reparler de la corrida. Nous on est là pour protéger les animaux, pour lutter aussi contre l'abandon des animaux. La SPA, c'est une association qui est nationale, qui existe depuis longtemps. Qu'est-ce que vous faites à la SPA, sans parler pour l'instant de votre refuge ?
Ok. Alors du coup, oui, la SPA, elle existe depuis 76 ans. C'est une association, notre siège est à Paris. On a 64 refuges et maisons SPA partout en France et 12 dispensaires. À la SPA, on sauve, on recueille, on protège, on éduque et on replace les animaux, du coup, pour leur retrouver une famille responsable qui prendra soin d'eux jusqu'à la fin de leur vie.
Vous êtes, est-ce qu'on peut dire passionné par les animaux?
Oui, je le pense, vraiment. Ouais. Oui, c'est ce qui m'a amené du coup à travailler à la SPA au départ.
Et comment ça s'est passé pour vous? Vous avez rejoint le refuge du côté de Lyon?
Alors moi, mon parcours, c'est que j'ai été bénévole au sein d'un dispensaire sur Lyon. Du coup, j'ai prêté main forte pour les aider au quotidien. Et par la suite, une place s'est libérée sur le refuge de Marennes. Et je suis devenu agent animalier, puis chef d'équipe, puis responsable.
Ce que j'ai envie d'entendre aussi à travers vos témoignages, Christophe ou même vous, Céline Gardel, c'est d'essayer de comprendre comment l'amour que vous avez peut-être pour les animaux vous a conduit à créer des associations, ou en tout cas à devenir responsable d'un refuge. Céline Gardel, je me tourne vers vous, la même question pour vous. Hein.
J'allais dire, j'ai grandi au cœur de la montagne noire, en fait, à la campagne. Et c'est vrai que j'ai toujours été entourée d'animaux et ils nous le rendent bien, voilà. Mais après, la vie a fait que l'école d'officier, l'Alsace, Paris, le retour aux sources. Et puis finalement, oui, c'est toujours ce même amour, voilà. Et ce goût aussi de rétablir une certaine justice et de les protéger.
Céline Gardel, je rappelle que vous êtes capitaine de police. Que vient faire la police dans votre association, les 4 Patounes ?
Alors, ben oui, merci pour la question qui me donne l'occasion, voilà, de préciser un petit peu nos actions, parce que finalement, on n'a pas, enfin, le pilier peut-être le plus qui nous différencie peut-être des autres associations, c'est bien en effet la lutte contre la maltraitance animale avec les interventions sur le terrain en tant que policier, gendarme. Mais au-delà de ça, on essaye d'aider les animaux en refuge, en détresse, avec les missions un petit peu classiques comme les collectes alimentaires, tout ce qui est aussi de financer des soins aux animaux qui sont en refuge. On intervient aussi dans les écoles et les collèges grâce à des partenariats que nous avons du CP à la seconde. Et c'est vrai que je crois énormément aux vertus de la formation, de la sensibilisation, de l'éducation. Voilà. Et on s'est vite rendu compte finalement que les policiers et les gendarmes manquaient de formation et que ça constituait un réel frein à la prise en compte de cette délinquance qui est bien spécifique. Donc on a voulu œuvrer dans ce domaine.
Et aller un peu plus loin.
Ouais. Tout à fait.
Christophe Dumont-Richet, ça doit vous parler. Hein. Je pense que vous êtes très complémentaires tous les deux ce matin, et c'est pour ça qu'on vous a invité. Mais la sensibilisation, c'est quelque chose qui est aussi au cœur de la SPA.
Totalement. En fait, on pense que la sensibilisation des jeunes générations, c'est vraiment ce qui fera que le monde de demain changera. De lutter du coup contre tout ce qu'on voit en ce moment se passer au niveau des influenceurs ou des personnes qui ont une image publique du coup importante. Et du coup, on essaie de contrebalancer tout ça aussi en intervenant en effet dans les écoles, auprès des jeunes générations, en créant des clubs jeunes dans nos refuges du coup pour inciter les jeunes à venir se rendre compte de la vie d'un refuge et de venir s'occuper des animaux. Toute la lutte contre la maltraitance, c'est vraiment un pilier aussi de toutes les associations et de la SPA en particulier. Enfin, on essaye nous aussi du coup de former les professionnels, les forces de l'ordre pour que quand ils soient confrontés à de la maltraitance, ils soient plus aptes du coup à gérer ces situations qu'à être démunis face à des situations peut-être moins courantes que les situations de la vie quotidienne.
La SPA travaille en étroite collaboration avec, je veux dire, les forces de l'ordre, en tout cas les autorités compétentes en la matière,
oui,
autour des abandons surtout et de la maltraitance.
Totalement pour la maltraitance, parce que du coup on n'a pas de force de police, donc en fait on monte des dossiers dans le cadre de signalements qu'on reçoit. En 2021, par exemple, c'est 16 000 signalements qui ont été traités à la SPA, du coup, sur lesquels nous sommes intervenus. Et quand on cherche à aller plus loin, parce que les personnes peut-être sont moins réceptives et ne veulent pas changer les conditions de vie de leur animal, du coup, pour saisir un animal, on a besoin des forces de l'ordre, du coup, pour nous aider dans ces démarches.
Céline Gardel, ça vous arrive de travailler avec la SPA aussi ?
Oui, tout à fait. Alors, je pars du principe que les animaux n'ont pas de couleur politique. N'ont
absolument.
Pas de... d'éthique, donc pour moi évidemment, alors à plusieurs pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en effet les signalements sont drainés jusqu'à nous via le 17, quand les gens font le 17, voilà, on a une convention avec la DDSP, notre association Les Quatre Patounes, mais aussi toutes les associations et notamment la SPA locale, c'est-à-dire on a oui la SPA, Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, le Chat Libre, Chamania, enfin voilà, toutes ces associations et les particuliers aussi qui peuvent nous saisir directement sur notre messenger ou notre site. Ça évidemment que voilà, et on a besoin d'eux a fortiori puisque nous n'avons ni famille d'accueil ni refuge animalier, donc on est vraiment 100% complémentaires. Et j'allais dire, nous sommes tous un précieux maillon de cette chaîne, dans le sens où si même le simple particulier, et c'est pas péjoratif du tout, ne déclenche pas et ne signale pas, ne dénonce pas les faits comme quoi son voisin frappe son chien le soir, voilà, ben on ne le saura jamais.
Oui.
Donc évidemment que nous avons tous besoin les uns des autres. Par contre, je suis, c'est important de le souligner, que pour intervenir en termes voilà, de légitimité, de crédibilité et surtout de respecter un cadre légal, évidemment que une saisie doit être administrative ou judiciaire. Dans ce cas-là, même nous seuls, on est obligés d'en référer au procureur. On demande l'article 99 pour avoir une confiscation provisoire dans un premier temps. Et notre métier, c'est surtout de faire cesser les infractions.
Ouais. Voilà. Il faut que ce soit fait dans les règles de l'art, Christophe.
Oui, totalement. Ouais. Comme le disait Céline, du coup, c'est vraiment important d'être, de travailler conjointement avec les forces de l'ordre parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là, du coup, de retirer les animaux contre le gré des personnes. Et donc, du coup, il y a une plainte qui est déposée. Enfin, le procureur est saisi, du coup, qui doit nous réquisitionner, du coup, pour saisir l'animal. Donc, dans un premier temps, dans un but provisoire, mais surtout dans le but pour nous d'avoir monté un dossier suffisamment solide pour ne pas avoir à rendre l'animal au final, étant donné que quand il subit des maltraitances, le pire qui pourrait se passer, c'est d'avoir un dossier incomplet qui ne nous permet pas de garder l'animal et de le remettre à l'adoption par la suite, mais de devoir le rendre à l'infracteur.
On a plein de choses à se dire, hein. Jusqu'à 11h ce matin, ça tombait aussi parce que j'adore les animaux, donc je suis à fond avec vous. On va accueillir Cathy au 04 72 38 20 23. Bonjour Cathy.
Bonjour.
Bienvenue sur RCF, on vous écoute.
Merci. Eh bien écoutez, moi je voulais simplement intervenir pour vous parler aussi de la communication animale, parce que c'est quelque chose que je pratique maintenant depuis 2 ans. La communication animale, c'est un échange silencieux en télépathie entre l'humain et l'animal. Alors c'est interespèce, hein, parce que j'ai pu intervenir sur des lamas, sur des perroquets. C'est vraiment tous les animaux, pas que les animaux de compagnie. Et cet échange, en fait, il est important parce que par rapport à l'humain, on va transmettre le message de l'animal et qui va permettre de comprendre certaines problématiques, en fait, et qui va également aider l'animal, des fois, qui est en fin de vie, par exemple. Si je prends un petit exemple, dernièrement, j'ai consulté un épagneul breton qui vivait avec sa maîtresse qui a 93 ans. Sa maîtresse qui est en fin de vie et qui partait en EHPAD, et le chien était atteint d'un cancer et ne voulait pas partir parce que il voulait rester avec sa maîtresse en fait. Et il souffrait beaucoup et il me l'a communiqué et en fait la maîtresse a été placée en EHPAD et le chien est mort 48 heures après. Donc il y a des choses comme ça où l'animal a des choses à dire à l'humain. Et je suis un peu le messager, en fait.
C'est ce qu'on appelle aussi comportementaliste, Cathy, vous confirmez ?
Non, tout à fait, parce que le comportementaliste, c'est un éducateur.
Oui.
C'est quelqu'un qui a un diplôme avec des notions particulières. Moi, quand il y a des problèmes de comportement, je n'interviens pas. C'est-à-dire que je fais intervenir une amie que j'ai qui est comportementaliste et qui, elle, va avoir un côté éducation, qui va donner des conseils, et qui va... Moi, je suis plus là pour trouver la problématique, écouter ce que dit l'animal a à dire, et ensuite, en fonction de ce qui se passe, faire intervenir un professionnel.
Eh bien, merci beaucoup, Cathy, d'être venue à l'antenne pour nous parler de ce que vous venez de dire, hein, tout simplement, ce métier, cette profession de communication animale. Christophe Dumont-Richet, ça vous parle ? Vous connaissez la communication animale ?
Oui. Enfin, je connais le principe et j'ai déjà échangé avec des intervenants en communication animale. Après, c'est des choses qui sont,
Il faut y croire, j'ai l'impression.
Il faut y croire, c'est ça, moins palpable. Après, je pense que ça peut vraiment aider et résoudre certaines situations. J'y suis pas confronté au quotidien, on va dire.
Vous avez des animaux, vous, personnellement ?
Oui, j'ai des animaux. J'ai un chien et un chat, du coup, et je garde le reste de ma place pour accueillir temporairement des animaux de la SPA qui ont besoin, du coup, de grandir ou de se remettre d'aplomb avant de pouvoir intégrer le refuge pour y être adopté.
Comment ils s'appellent, aux animaux ? Je me permets
Vraiment, ma chienne s'appelle Peanut, et mon chat s'appelle Marvin.
Ah bah très bien, Peanut et Marvin. Et vous, Céline Gardel ?
Pour la première question, ce que j'en pense ou par rapport aux animaux ?
Les deux.
Alors, comme je vous disais, oui, nous sommes tous un précieux maillon et ça doit être dans la boîte à outils pour aider les animaux, ça doit être intéressant. Mais en qualité de force de l'ordre, on est peut-être très rationnel, cartésien. Et quand on parle avec le procureur, on est obligé de donner des choses, l'élément matériel, moral et légal, et dans l'élément matériel, que ce soit très, très palpable. Concernant mes animaux, oui, bien sûr, j'ai un petit zoo à la maison, là j'ai atteint un peu le plafond. J'ai 2 chats et un chien, dont un chat qui vient de la SPA justement, qui a une petite patoune un peu handicapée, mais qui est très adorable, elle est vraiment très très câline. Et elle occupe bien notre vie et notre espace. Et ensuite, Hancock, qui lui a été retiré suite à des sévices à queue de cruauté l'été dernier. Donc ça fait 1 an et demi que nous l'avons. Et son ancien propriétaire a été coupé de 4 mois ferme de prison. Et de 10 ans d'interdiction, puisque comme vous le soulignez, c'est très important de demander la confiscation du chien, parce que paradoxalement, même si les sanctions sont appliquées, la propriété est toujours appartient toujours à l'ancien propriétaire, ce qui est quand même juste hallucinant. Donc on a bien obtenu la confiscation de la de l'animal, donc de Hancock, et l'interdiction, alors on avait demandé définitive, mais on a eu pour 10 ans. Voilà. Mmh. Et Hancock étant un vieux papy staff, avec tout ce que ça engendre comme obligation pour les chiens de catégorie, mais il est adorable, vraiment.
Voilà, des beaux foyers, en tout cas, on l'entend ce matin. Christophe Dumont-Richet, si on se concentre sur la SPA et de vos différentes missions, parce que vous faites beaucoup de choses, alors on a parlé du signalement, on peut signaler une maltraitance, un abandon également. J'aimerais aussi qu'on parle de ces personnes qui ont envie de se séparer de leurs animaux. C'est une réalité, qui doivent se séparer de leurs animaux. Comment vous les accueillez? Comment vous faites? Comment vous les accompagnez aussi?
Alors, sur le refuge, en fait, on accueille les animaux de plusieurs manières différentes et majoritairement de la fourrière. Donc, ce sont des animaux qui sont trouvés errants sur la voie publique, soit parce qu'ils ont été délibérément abandonnés à leur sort sur la voie publique ou parce qu'ils se sont échappés ou perdus. Une fois un délai légal passé, du coup, ils arrivent du côté du refuge où on est en mesure de les mettre à l'adoption si leur maître n'a pas fait la démarche de les récupérer. Et la deuxième façon, c'est du coup les abandons directs. Donc, c'est des personnes qui nous contactent, à savoir qu'on, étant donné qu'on ne pratique pas d'euthanasie sur notre refuge, aucune euthanasie de confort ou de convenance. C'est-à-dire que même si l'animal est là depuis longtemps, s'il est vieux, s'il lui manque une patte ou quoi, on ne pratique pas d'euthanasie. Donc, du coup, on travaille souvent à flux tendu. C'est-à-dire qu'une place se libère en adoptant un animal. Du coup, on sauve deux animaux parce qu'on prend un animal et on libère une place pour le prochain qui aura besoin d'être sauvé. Du coup, étant donné qu'on est toujours sur ce flux tendu, on demande aux personnes de nous contacter au préalable, du coup par téléphone, par mail ou autre, et du coup on les place sur une liste d'attente en échangeant avec eux sur les raisons pour lesquelles ils sont contraints d'abandonner leurs animaux, de savoir si vraiment ils ont, enfin, en tout cas de les accompagner pour savoir s'ils ont tenté des choses, s'ils ont envie, le temps, l'argent et la patience de tenter des choses pour garder leur animal. Et donc du coup, une fois qu'ils sont inscrits sur notre liste d'attente, généralement, voilà, on leur demande, on leur donne une date du coup à laquelle ils pourront nous confier leurs animaux, en jouant sur ce moment d'attente pour éventuellement se dire que s'ils n'ont pas tout tenté, ils peuvent déjà commencer des démarches s'ils souhaitent garder leur animal. Et si c'est pas le cas, du coup, en tout cas, ils rentrent sur le refuge dès qu'on a une place qui se libère pour les accueillir.
On retourne au 04 72 38 20 23. Jean-Marie est avec nous. Bonjour Jean-Marie.
Oui, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe d'RCF.
Et on vous écoute.
D'accord, bah écoutez, je voulais juste faire un tout petit rappel par rapport à la corrida, sujet ô combien brûlant, malheureusement. Juste pour dire que j'étais radicalement contre, hein, que c'est vraiment une pratique qui me révulsait. Voilà, fin du chapitre. Et là, je voulais vous parler de l'association L214, qui est une association qui est extrêmement active et courageuse vis-à-vis des conditions d'abattage et d'élevage des animaux. Quand celles-ci sont pas respectées, et Dieu sait si ça arrive assez souvent malheureusement en France, on voit donc ils ont été assez souvent, enfin, ces abattoirs et ces élevages ont été parfois épinglés et ont eu des amendes à payer par rapport au fait qu'ils ne suivaient pas du tout les règles minimales d'hygiène et de bien-être, enfin, si tant est qu'on puisse parler de bien-être dans ce cas de figure, enfin voilà, les règles d'abattage. Et à ce sujet, j'ai découvert cette association. Il y a environ un an et demi, j'habite donc dans Sud-Loiret, limite Nièvre, centre-Val de Loire, par rapport à une entreprise qui donc pratique l'abattage de dindes, qui se trouve à Blancafort, et qui a été donc épinglée par L214. Donc je me suis penché sur le problème, j'ai creusé, et je me suis rendu compte, vous allez voir, ça va rejoindre le premier débat, je me suis rendu compte que non seulement les conditions d'abattage étaient absolument déplorables et ne suivaient pas la législation,
oui,
mais le personnel était très 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 maltraité. Et il y a eu plusieurs suicides liés directement aux conditions de travail. 4 en l'occurrence, enfin 3, une tentative de suicide il y a quelques mois. Donc là, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, il n'y a pas que les animaux visiblement qui sont maltraités. Mmh. Et là, ça rejoint un petit peu le débat, le premier débat, à savoir qu'il y a un lien véritablement, enfin pour moi, entre le mal ou le bien qu'on peut faire aux animaux et le mal et le bien qu'on peut faire aux personnes, aux êtres humains. Et là, ça a été vraiment le cas. Et donc, voilà, l'entreprise, j'ose espérer que l'entreprise ait rectifié ses méthodes de management pour que cette maltraitance, à la fois, enfin, animale d'un certain côté et puis de...
Et humaine, hein, comme vous l'avez dit.
Ouais. Cesse, quoi. C'est très grave. Quoi.
Merci voilà. Jean-Marie, merci d'être venu à l'antenne et nous avoir parlé de cette association L214 qui coopère souvent avec la SPA.
Alors, on a des, en fait, comme le disait Céline tout à l'heure, on est des maillons d'une chaîne. Du coup, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et en fait, on est un petit peu tous orientés vers une spécificité particulière. Pour le coup, la SPA, c'est plus sur les animaux domestiques. Mais en effet, l'association L214 œuvre et milite beaucoup sur les conditions d'abattage et autres. Forcément, les associations ont des liens. Après, on aimerait tous voir plus de liens, plus de choses, voilà, qui pourraient se mettre en place. Mais en tout cas, oui. Enfin, et pour rebondir sur ce que disait Jean-Marie, enfin, en effet, tout ça est souvent très imbriqué. Et je pense que Céline ne me contredira pas sur le fait que concrètement, à chaque fois qu'on va sur une enquête, on sent aussi que du coup, les humains ont besoin d'être accompagnés.
Il y a une violence, peut-être.
Totalement. Ouais. En fait, on peut pas. Alors nous, on y va bien sûr pour les animaux, mais quand on voit le foyer dans lequel il peut y avoir des enfants et que du coup, ils ont été témoins de tout ça, on peut pas juste fermer les yeux. Et du coup, on travaille conjointement aussi avec différents services pour faire en sorte de pouvoir accompagner ces personnes.
Céline Gardel, vous confirmez, ça vous parle énormément?
Ah oui, je partage 100% l'analyse. Oui, tout à fait. Alors, par rapport à plusieurs choses, d'abord, en effet, c'est au carrefour de fragilité et de détresse sociale, souvent, dans le sens où le frein est parfois financier, il y a aussi le frein de la connaissance de la race et de pas toujours se poser la question en termes d'éducation pour essayer de trouver une issue par le haut. Donc oui, c'est triste. Il y a des situations très tristes. Et j'entends 100% dans le sens où il y a une seule violence. Et là, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a justement, j'interviens au Sénat à l'occasion du colloque « Une seule violence » le 17 mars prochain. C'est vraiment au carrefour. On voit bien que tout ce qui est maltraitance animale, il y a souvent un lien et c'est concomitant avec les violences intrafamiliales. Voilà, les enfants, les femmes, c'est malheureusement un mode de communication. Tout à l'heure, vous parliez des abandons. On annonce souvent le chiffre 100 000 abandons par an en France. On est les champions d'Europe. Je pense que ça mérite aussi de relativiser. C'est un discours qui est très culpabilisant. Et ce n'est pas le chiffre, le vrai chiffre. Oui, il y a 100 000 abandons dans le sens où les gens se défont. Mais pour moi, par exemple, c'est la double peine quand on voit des personnes âgées qui doivent rentrer en maison de retraite et qui doivent se défaire de leurs compagnons de vie. Moi, je trouve que c'est vraiment la double peine. Et ils n'ont pas le choix. Donc oui, c'est un abandon, mais il n'y a pas l'intention de faire souffrir l'animal. Voilà. Donc peut-être aussi de voir notre société autrement. Je me souviens, l'été dernier, j'avais fait une petite publication en disant, dans ma vie d'avant, je faisais des super croisières, j'allais dans des super hôtels. Aujourd'hui, j'ai un chien. Aujourd'hui, j'ai un chien de catégorie. Donc, tout ça, je n'y ai plus droit. Donc, peut-être d'essayer d'être plus ouvert et de faire des conventions dans les campings, des hôtels qui acceptent, sur les plages, peut-être, pourquoi pas, de faire des enclos climatisés et que le temps que les gens aillent à la plage, enfin, qu'ils ne soient pas privés, d'évoluer, de vivre ensemble, l'homme et l'animal.
Christophe Dumont-Richet, c'est intéressant ce que nous dit Céline sur... peut-être aussi le jugement des personnes qui abandonnent volontairement ou involontairement. Alors c'est un peu délicat de dire ça, mais vous êtes passionné par les animaux. En tout cas, on sent qu'il y a un lien qui est très fort. Vous travaillez aussi à la SPA. Comment vous faites pour garder aussi un regard assez extérieur sur la situation, tout en respectant finalement le parcours de chaque personne qui, parfois, ça se passe pas très bien dans le foyer et il n'y a pas le choix. C'est un peu délicat de dire ça, hein, j'entends.
Non, bien sûr. Déjà, je suis d'accord sur le fait que le problème, c'est que la terminologie abandon, en fait, elle regroupe plein de choses. Et donc, du coup, c'est le terme qu'on utilise pour dire qu'on cède son animal à une association de protection animale, par exemple. Et c'est le même terme qui est utilisé pour une personne qui le laisserait dans la nature en juste en ajoutant la mention sauvage, du coup, pour dire que cet abandon, il est inqualifiable. Concrètement, en fait, nous, si vous voulez, quand les gens ils viennent à nous... En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on est là pour protéger l'animal, pour sauver l'animal, et que si l'animal en a besoin, et que justement pour éviter qu'il se retrouve dans la nature, et en sachant qu'on se dit souvent un chat peut vivre, par exemple, en mangeant des petites baies de la forêt, si je le mets dans la forêt, il s'en sortira. Non, en fait, il s'en sortira pas. Un chat, c'est un animal domestique, et du coup, dans la forêt, il meurt. Donc, en fait, on essaie vraiment de relativiser là-dessus. Après, il y a, c'est pas qu'il y a une justification à l'abandon, mais c'est sûr qu'il y a des abandons. L'exemple que donnait Céline, enfin, c'est quelque chose qui est cruel, en effet, parce que du coup, on se dit, on a vécu toute la vie avec son animal, et c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce que la vie nous contraint, parce que là où on va, c'est pas possible de l'emmener. Et ça, c'est une vraie problématique. Après, c'est sûr qu'il y a des situations où on sent les personnes beaucoup moins attachées à l'animal et beaucoup moins vexées, enfin, déçues de devoir le céder. On essaye toujours de relativiser sur ces choses-là. Après, on cherche quand même de toujours sensibiliser et de responsabiliser les personnes qui le font quand même. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à culpabiliser. Par contre, on cherche quand même à rappeler aux gens qu'ils avaient pris un engagement du coup en adoptant, en achetant, en se faisant confier un animal, et que du coup, en fonction de la situation, ce qu'ils sont en train de faire, du coup, bah, c'est leur responsabilité qui faillit, quoi. Donc, on est là aussi pour les mettre face à ce qui est en train de se passer, et pour pas que ça se reproduise par la suite. Alors, la problématique aussi, c'est que on a des choses qui sont mises en place. Enfin, comme disait Céline tout à l'heure, l'interdiction de posséder un animal pendant 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de registre en fait dans lequel ces personnes sont inscrites. Donc en fait, ça demande ensuite une surveillance de chaque jour.
C'est une parole en l'air.
Alors la personne, elle n'a pas le droit de la voir. Et en l'occurrence, si elle reprend un animal, en fait, on est en mesure d'aller voir les forces de l'ordre et que les forces de l'ordre lui retirent son animal.
Oui, mais ça, comment on le sait?
Ah ben, parce que du coup, on le sait à la base. Une fois qu'il y a eu le procès et qu'on sait qu'il y a eu une interdiction de 10 ans, du coup, on est informé, donc on le sait. Mais si nous, on ne suit pas, du coup...
Il faut qu'il y ait un suivi.
Et donc ça, c'est un suivi au quotidien. Enfin, je veux dire, c'est la mission ne s'arrête pas là, en fait. Et du coup, après, il faut continuer, faire un service de veille pour s'assurer que du coup, on ne reparte pas là-dedans. Donc nous, on essaie vraiment... On pourra pas suivre toutes les personnes qui demandent à la SPA ou à une autre association de prendre en charge un animal. Mais en fait, on essaye quand même de les mettre face à leurs responsabilités sur le fait qu'ils se sont engagés et qu'à un moment donné, l'animal, enfin, c'est pas un enfant, mais ça fait partie, c'est un membre de la famille, ça fait partie de la famille. Et donc, du coup, on estime que c'est important, en tout cas, d'avoir en conséquence ce qui est en train de se passer parce que l'animal, il subit aussi, lui, un traumatisme.
Vous avez la parole au 04 72 38 20 23. Venez nous parler du lien que vous avez avec vos animaux, de vos engagements aussi en termes de protection animale, si vous faites partie d'une association comme la SPA, comme les 4 Patounes aussi qu'on vous présente, ou d'une autre association. Bah, venez nous dire pourquoi au 04 72 38 20 23, par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Ce groupe Facebook où Elisabeth nous a laissé un message, elle nous dit: nous devons à tous le respect et bien plus favoriser leur bien-être, en parlant des animaux, ce qui entraîne le rejet de toute maltraitance. Au contraire, développer leurs capacités. Exemple, les chiens capables de reconnaître les drogues, les animaux accompagnant les personnes âgées ou handicapées, leur éviter toute souffrance et respecter leur dignité. C'est vrai que c'est intéressant, Céline Gardel. Alors vous êtes capitaine de police. Est-ce que vous avez dans votre équipe des chiens qui travaillent avec vous?
Oui, alors bon, moi je travaillais pas à la Cino, mais en effet mes collègues de la canine, pour tout ce qui est les stupéfiants, la recherche de personnes, les explos et les chiens de défense, ce sont nos collègues aujourd'hui, puisqu'ils ont ils ont même une matricule comme nous-mêmes, policiers ou gendarmes, et voilà, il y a une belle complicité sur le terrain.
Et vous, à la SPA, est-ce que ça vous arrive de peut-être d'accompagner des éducateurs canins?
Alors oui, en fait, on a aussi un partenariat du coup avec la police et la gendarmerie par rapport à certains types de chiens du coup qui pourraient être récupérés en refuge parce qu'ils ont des habilités propres du coup pour travailler. On travaille avec des éducateurs canins aussi. On partage. Il nous arrive de travailler par exemple avec l'association Acadia du coup, dont les chiens sont formés pour sentir le diabète chez les enfants notamment, pour reconnaître ce genre de choses. Après, je suis bien d'accord sur le fait de les respecter, que du coup, les chiens peuvent avoir une utilité, comme le disait la personne sur le groupe Facebook. La dérive de tout ça, c'est aussi qu'on a des chiens, des fois, qui ont des habilités propres, du coup, pour... Enfin, les chiens dont parle Céline, je pense, la plupart d'entre eux sont des malinois, par exemple, des bergers malinois. Et le problème, aujourd'hui, c'est que ces chiens-là, du coup, sont vendus aussi pour des vies de famille. Et c'est des chiens qui, à mon sens, ne sont pas adaptés à ces vies de famille. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté à une hausse des demandes de prise en charge de ces chiens-là, du coup, dans nos refuges, parce qu'on ne s'est pas occupé d'eux correctement, c'est-à-dire qu'ils ont des besoins particuliers, qu'on n'a pas su répondre à leurs besoins particuliers et que du coup on vient nous chercher nous après du coup parce qu'on n'est plus en mesure, les gens ne sont plus en mesure de s'en occuper. Ces chiens, c'est vraiment, ça devient de plus en plus fréquent dans nos refuges et de plus en plus compliqué à gérer. Du coup, c'est des chiens qui ont des besoins particuliers, qui demandent des maîtres expérimentés. Et donc du coup, j'invite vraiment toutes les personnes du coup qui veulent faire l'acquisition d'un animal, d'un chien, de vraiment se renseigner du coup sur les besoins de l'animal et de se poser les bonnes questions à savoir s'ils seront en mesure de répondre à ces besoins.
Ça demanderait, d'après vous, une régulation, en tout cas un vrai contrôle de certains chiens.
Je pense que oui, enfin, en fait.
Un chien ou d'autres animaux.
Je pense
animaux,
que oui.
Hein. En fait, les NAC aussi.
Oui, voilà, les NAC. Après, c'est vraiment la plus grosse problématique aujourd'hui, c'est sur les chiens. Enfin, selon moi, c'est sur ces chiens-là, du coup. Et je pense qu'en effet, il devrait y avoir un plus grand contrôle des personnes à qui on confie ces chiens. C'est des super chiens de famille, en fait. Vraiment, enfin, ils peuvent s'avérer être des super chiens de famille si les familles sont super avec eux. Mais du coup, ça demande énormément de temps, de patience, d'engagement et vraiment de pouvoir répondre à ses besoins. Et bien souvent, on sait que dans notre société aujourd'hui, la vie change, que les personnes, du coup, leur situation, elle évolue très rapidement et que du coup, on a un petit peu moins de temps pour s'occuper de tout ça. Alors, quand on le veut, on le trouve, mais encore faut-il le vouloir. Donc, vraiment, je pense que c'est très, 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 très important, avant d'acquérir un chien, de bien se poser la question de savoir si on est en mesure de répondre à ses besoins.
Alors, vous dites avant d'acquérir un chien, mais comme un animal, d'ailleurs.
Comme tout animal. Ça, je suis bien d'accord. Mais c'est vrai que, étant donné que
ça rejoint la responsabilité que vous avez pointée du doigt tout à l'heure.
Après, alors voilà, nous, à la SPA, et je pense dans beaucoup d'associations, on prône l'adoption responsable, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens et qu'on se pose les bonnes questions sur pourquoi adopter un animal, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui vous motive et est-ce que vous serez en mesure d'offrir un cadre de vie qui sera en accord avec ce dont l'animal aura besoin, que ce soit pour un NAC, que ce soit pour un chien, que ce soit pour un chat. Vraiment.
Il y a souvent des associations, je crois que la SPA en fait partie, au moment de Noël, alors là on est dans la période, qui lance un message, par exemple, offrez l'extraordinaire aux animaux en détresse, c'est pour Noël, donc offrir aussi à une personne un animal. Ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque?
Non, alors le message, c'est comme ça qu'il est mal interprété.
Voilà, je pense que je l'ai mal interprété.
Merci Melchior. Non, en fait, le message, c'est vraiment offrez-lui une nouvelle vie, en fait. C'est que, en fait, c'est la famille qui doit s'avérer être le cadeau de l'animal. L'animal, en fait, il peut jamais, enfin, en tout cas, à notre sens, à la SPA et dans plein d'associations, l'animal ne peut pas être un cadeau. C'est-à-dire que ça doit être une démarche réfléchie de venir adopter un animal. Et c'est la mauvaise bonne idée de mettre un animal dans un carton avec un petit neuneu à ouvrir sous le sapin. On nous le demande encore régulièrement, hein, chaque année. Mais
est-ce
vraiment,
que vous avez un papier cadeau?
on nous demande souvent si on peut le garder jusqu'au 24 décembre, du coup, pour le mettre sous le sapin. Ouais. C'est vraiment la fausse bonne idée. Et vraiment, notre travail, c'est de responsabiliser les gens et de les sensibiliser sur le fait que l'animal, il a des besoins, mais que du coup, on va vivre 15 ans avec un chat, avec un chien, 20 ans avec un chat, et que même le plus beau des cadeaux, ça devrait être d'amener la personne choisir son animal, du coup, parce que c'est avec elle qu'il va vivre toute sa vie. Et cette personne-là, c'est avec lui qu'il va vivre toute sa vie, et que du coup, c'est important que ça matche, en fait, que ça fonctionne,
qu'il y ait un lien,
et que du coup, il y ait une envie aussi d'avancer ensemble.
On a encore plein de choses à se dire jusqu'à 11h avec vous deux, Christophe Dumont-Richet et Céline Gardel, et puis avec vous toutes et tous au 04 72 38 20 23. Appelez-nous, hein, venez nous parler de vos animaux, peut-être de l'amour que vous avez envers eux, et puis de la protection des animaux si c'est un sujet qui vous tient à cœur. 04 72 38 20 23. On vous attend par mail également avec vos témoignages à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.
Moi j'aime bien les animaux. Les petits chats, surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. J'ai une passion depuis peu pour les beaux phénix. J'en connais un parmi eux, il est fantastique. Autrefois, on l'appelait Renaud le renard. Mais depuis qu'il boit du lait, il est bien plus peinard. J'aimerais bien lui parler de ma tortue Pénélope, qui fait rien qu'à éburner et qui est un peu myope. Moi j'aime bien les animaux. Les petits chats, surtout. aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. Ma passion depuis toujours, c'est les cachalots, les baleines et leurs amours, les petits baleineaux. J'aime beaucoup les rapaces, les éperviers, les aigles, les colombes et les limaces. Bonjour la rime espiègle. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevaux, les chouettes et les hiboux. J'aime tous les animaux de l'arche de Noé. Mais le pire, le plus chacal, c'est l'homme et sa fiancée qui torture et qui massacre de bien jolis taureaux dans de sinistres spectacles et sous les bravos. Pour cela, je souhaite un jour que les charognards s'en viennent tourner autour de leur reste blafard, qu'ils finissent un peu comme les ours, les éléphants, qu'on dessine ou qu'on dégomme pour le goût du sang. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. Les chouettes et les hiboux.
Les animaux. Allez, on s'autorise cette petite faute. C'était la chanson de Renaud sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et les animaux, on en parle jusqu'à 11h avec nos deux invités. Céline Gardel, je rappelle que vous êtes capitaine de police et présidente d'une association basée à Toulouse qui s'appelle Les Quatre Patounes. Et puis Christophe Dumont-Richet nous accompagne, responsable d'un refuge SPA de Marennes, Lyon. C'est en banlieue lyonnaise. Isabelle est avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour Isabelle.
Bonjour. Voilà, je vous appelle. J'ai eu affaire à une maltraitance d'animaux. Donc j'ai fait un signalement au niveau de la police municipale. Apparemment, rien n'a bougé. Donc j'ai fait appel aussi à des associations. Rien ne bouge également, hein, parce que les associations sont surbookées. Donc je voulais poser la question à savoir est-ce que c'est possible d'avoir une police, comme c'est en Belgique, une police animalière, pour que les démarches soient plus faciles.
Merci Isabelle d'être venue à l'antenne avec cette remarque intéressante. Céline Gardel, je me tourne logiquement vers vous.
Oui, alors merci beaucoup pour la question, voilà, qui me donne l'occasion de développer un petit peu nos actions et de dire qu'en effet, il y a deux freins à la prise en compte de cette délinquance, au-delà voilà, de tout notre quotidien de policier, cambriolage, viol, tout ce que l'on peut entendre, c'est naturellement le manque de moyens et le manque de formation. Alors c'est vrai que nous avons créé notre seconde e-formation en juin dernier, qui est accessible gratuitement à toutes les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, policiers municipaux, mais au-delà aussi à tout le monde. Parce que finalement, on ne partage pas toujours le même référentiel et nous ne pourrons agir que s'il y a réellement une infraction. Je vous donne un tout petit exemple. Il y a 15 jours, une dame m'a contactée parce que sa voix ne regardait pas son animal dans les yeux et ne lui parlait pas quand elle lui donnait à manger. Alors j'entends bien que peut-être l'animal n'était pas vraiment considéré dans la famille, mais malheureusement, j'aime beaucoup les animaux, mais ça ne constitue pas une infraction. Donc c'est important de savoir que par exemple pour un chien, s'il a 5 mètres carrés ou s'il est à la tâche, s'il a 3 mètres, s'il a une niche, une zone d'ombre en été, de l'eau claire et tous les jours à manger,
malheureusement, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin en termes de conditions de détention. Et ce ne sera que du contraventionnel. C'est puni de 750 euros d'amende. Après, il y a naturellement toute la déclinaison des délits, comme les sévices, actes de cruauté, les abandons, comme on parlait, ne pas subvenir aux besoins vitaux de l'animal. Et l'abandon, ce n'est pas seulement, enfin moi j'en ai jamais vu sur le bord de l'autoroute. L'abandon, c'est ce que l'on voit malheureusement tous les étés, les gens qui partent en vacances et laissent à l'intérieur de leur maison pendant 15 jours ou 6 semaines, là ce que l'on a vu, leurs propres animaux enfermés, punis et condamnés à mourir. Voilà. Donc peut-être déjà voilà de partager le même référentiel et qu'est-ce que c'est une infraction. Au-delà de ça, peut-être voilà être indulgent parce que malheureusement aujourd'hui tout le monde, toutes les forces de l'ordre ne sont pas formées, même si on s'y applique et je vous dis grâce à notre e-formation gratuite sur notre site Les Quatre Patounes. Et au-delà de ça, donc c'est qui est accessible à tout le monde, mais si ce sont des policiers, des gendarmes et des policiers municipaux, on leur offre dans les 48 heures un lecteur de QR partout en France. On a déjà couvert 65 départements et on essaye voilà, de vraiment donner les outils aux collègues de terrain avec le tableau des infractions, les codes NATINF, de leur faciliter, on va dire, le quotidien.
Voilà. Vous êtes vraiment sur tous les fronts hein, dans cette association, on l'entend. J'aimerais aussi qu'on parle des jeunes parce que dans votre association, les quatre patounes, il y a un vrai volet sensibilisation. Vous dites de la nouvelle génération et ça a son importance, Céline.
Ah, tout à fait, j'y crois énormément. Christophe le soulignait très bien tout à l'heure, on est là pour changer pour essayer humblement d'apporter la pierre à l'édifice et de changer le monde de demain. Et ça passe vraiment par les nouvelles générations. Du CP à la seconde, nous avons des partenariats, on intervient dans des bacs pro, mais aussi dans des centres de loisirs. Ce sont des générations qui sont touchantes, touchées, de voir un petit peu que l'animal, ce que l'animal ressent, le froid, la douleur. Je pense que c'est important. Et puis au-delà de ça, quand on intervient et que l'on leur fait faire par moments des petites bricoles artisanales, quand ils rentrent à la maison avec, ils en sont tout fiers d'amener leur petit bonhomme, leur petit chat, leur petit chien, et ça trône sur le buffet, on va dire, de la cuisine pendant les 20 ans qui arrivent. Donc il y a le tata, la tata, le papy, la mamie qui en profitent, et le petit est très heureux de dire, et par moments il est acteur, et c'est là où vraiment on essaye d'appuyer. Par exemple, de savoir, il y a des gens encore aujourd'hui qui ne savent pas que faire quand on voit un animal en détresse dans une voiture en plein soleil. Ouais. De réfléchir aussi,
Et alors justement, Céline, et je pense que cette émission peut aussi avoir un volet pédagogique. Si en plein été, on voit un animal enfermé dans une voiture sans les fenêtres ouvertes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit appeler la police?
Tout à fait. En fait, c'est l'état de nécessité. C'est-à-dire que si vraiment l'animal est en détresse, il allaite, il bave, il est vraiment dans un état de... Et ça peut aller très très vite, dans un coup de chaud dans une voiture, que ce soit un chat, un chien, peu importe. Hein, voilà. Si l'animal est en détresse, alors naturellement, on aura besoin de preuves, c'est-à-dire de photos, de vidéos, de témoins, et d'appeler les forces de l'ordre, voilà, de faire le 17. Si jamais il n'arrive pas suffisamment tôt, alors oui, on peut casser la vitre, c'est l'état de nécessité, c'est pour porter secours à un animal qui est en détresse et en danger imminent, mais naturellement, en droit français, la personne pourra se retourner contre vous puisque vous avez dégradé le véhicule. C'est pour ça que c'est très, très important de faire jouer l'état de nécessité qui annule cette possibilité-là.
Filmer, et voilà, vraiment d'avoir des preuves, Christophe.
Oui, totalement. C'est important d'avoir des preuves. C'est important aussi d'essayer d'actionner la poignée du véhicule. Ouais. Parce que des fois, c'est pas fermé, en fait, et ça évite vraiment de casser la vitre. Mais en effet, quand l'animal, il est enfermé en pleine chaleur, du coup, en plein été, en plein soleil, dans une voiture, avec les fenêtres fermées, concrètement, c'est 20 minutes avant qu'il meure, à peu près. Enfin, après, ça dépend du gabarit du chien et autres. De l'animal en général. Mais ça va très, très vite. Donc, concrètement, si on est en mesure mesure, maintenant on a tous des smartphones, si on est en mesure de faire une photo, de filmer, l'animal il en a besoin, c'est de l'absolue nécessité, ben en fait faut y aller. Quant à la responsabilité, alors c'est sûr que la personne peut se retourner vers la personne qui lui a cassé sa vitre. Je pense à ce moment-là que les forces de l'ordre font aussi un travail pour rappeler à la personne quand même que la première infraction, du coup, c'est lui qui a laissé son animal du coup dans des conditions de mort, du coup, dans son véhicule, quoi.
André est avec nous depuis Bruxelles. Bonjour André.
Oui, bonjour. Voilà, moi j'ai un peu des idées assez radicales, style antispéciste. Bon, j'étais aussi là pour la première partie, la fin des eaux. Oui. Là, ici, c'est plus la question des animaux domestiques, donc de la détention des animaux. Et pour moi, je suis pour qu'il y ait un permis soit instauré, surtout pour les chiens.
Bon, les chats aussi.
Les animaux exotiques, c'est déjà un peu différent. Les chats, ils sont plus indépendants. Mais bon, chaque année, il y a des accidents graves qui se passent avec des chiens de race qui peuvent avoir un comportement dangereux. Il y a aussi des choses plus anodines, mais parfois très emmerdantes, comme les aboiements de chiens. Donc, je me dis, il faut pas... en Belgique, il y a un permis qui a été instauré dans la région Wallonne, mais c'est uniquement administratif, ce qui, pour moi, est un non-sens. Il faudrait soumettre...
C'est déjà une étape.
À des conditions, quoi. Le fait de détenir un animal ne serait plus à n'importe quelle condition. On peut s'y tenir compte des besoins de la personne, isolée, etc. Mais bon, je veux dire, on dit prévenir mieux vaut que guérir. Hein.
Ben merci beaucoup André, voilà une bonne idée. Ça revient très souvent, hein. Ça fait longtemps que moi je fais des émissions sur les animaux et à chaque émission on a des auditeurs qui nous disent bah, pourquoi on ne fait pas un permis pour avoir un animal.
Oui, très bonne question.
Vous en pensez quoi?
Ce que j'en pense, c'est que je pense que c'est toujours compliqué de mettre des choses en place. On a besoin qu'il y ait des choses qui soient mises en place, mais on a surtout besoin que les choses qui sont déjà mises en place soient suivies des faits. Et c'est un petit peu la problématique. Militer pour un permis de détention de l'animal, il faudrait vraiment être sûr au préalable que du coup ça réponde aux vrais besoins de l'animal. Je vous prends juste un exemple, mais la loi a mis en place récemment, à partir du 1er octobre, un certificat d'engagement de connaissance. Donc, c'est-à-dire que maintenant, les personnes qui souhaitent acquérir un animal, elles doivent au préalable soit déjà avoir eu un animal de la même espèce, du coup, et pouvoir l'attester, soit éventuellement avoir signé un certificat d'engagement et de connaissance qui devra être signé 7 jours avant l'acquisition de l'animal. Aujourd'hui, il y a aucun moyen de contrôle de ces choses-là. Aujourd'hui, les associations se contraignent du coup à respecter la loi. Toutes les problématiques d'échange d'animaux ou de cession ou de vente d'animaux des sites internet ou autres, d'échange entre particuliers, tout ça, ils sont confrontés à ça. Normalement, ils ont déjà plus le droit de vendre un animal, sauf s'ils se sont déclarés en tant que propriétaire. Et pourtant, aujourd'hui, en fait, il n'y a aucune action. Enfin, les actions sont trop peu nombreuses face à ces personnes-là. Donc, mettre des choses en place, sur le principe, oui, mais il faut vraiment qu'elles répondent à un vrai besoin de l'animal. On voit aussi la loi sur les chiens dits dangereux, les chiens de catégorie, le chien de Céline, un American Staff, les Rottweiler et autres. Du coup, cette loi, elle a certainement servi à certaines choses. Et en même temps, on voit qu'il y a trop de flou autour de ces lois qui permettent du coup à des animaux de continuer de se reproduire et de créer des animaux de première catégorie qui sont interdits à la cession en France. Enfin, vous voyez, ça a continué quand même. Et je pense que bien réfléchi, moi je suis pour un permis de l'animal, mais qui aille vraiment dans un bon sens pour tout le monde, l'animal et l'humain.
Ouais. Et pardonnez-moi, ça va faire un peu réac, mais voilà, il faut aussi avoir ses responsabilités.
Ah bah
voilà.
totalement. Et ça, c'est la première
chose. On enfonce une porte ouverte.
C'est
autour de beaucoup de sujets d'ailleurs. Mais
totalement.
Bon, voilà, soyons responsables aussi quand il s'agit d'avoir un animal chez soi. Je ferme la parenthèse. Maria, bonjour Maria, est avec nous.
Oui, bonjour. Je suis, en ce qui me concerne, la présidente d'une association que j'ai créée il y a bientôt 16 ans. Donc, ça concerne, je n'ai pas de refuge, mais je m'occupe de plus de 100 communes en Savoie. Et je m'occupe de la stérilisation de masse. Et c'est là où, malheureusement, il y a une grosse lacune. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on oblige, par contre, l'identification, c'est maintenant verbalisable d'ailleurs depuis très peu de temps, mais par contre, on n'oblige toujours pas à faire une stérilisation. Donc, c'est une catastrophe. Les refuges sont archi pleins. On pratique des euthanasies en masse parce qu'il n'y a pas de place. Les refuges ne sont pas extensibles. Donc là, il y a un sérieux problème. Il faut vraiment que les lois changent. Par ailleurs, je trouve au jour d'aujourd'hui, vu la difficulté pour les animaux, pour les gens qui détiennent des animaux, il faudrait que la TVA baisse au lieu de 20%, que la TVA passe à 5% chez les vétérinaires. Combien de personnes abandonnent leurs animaux faute d'argent parce qu'ils n'ont pas les moyens de les soigner? Donc pour les sauver, ils vont les abandonner au profit des refuges. Donc là, il faut aussi que ça bouge. Il faut que vraiment on change les données. Il faut aussi que les mairies s'investissent davantage dans la cause animale parce que, bon, souvent, moi je vois, il y a des mairies qui ne veulent absolument pas donner de subvention, même pas 50 euros. Pour donner une subvention, pour aider un peu les associations. Donc là, il y a aussi un sérieux problème.
Merci Maria, merci beaucoup d'être venue à l'antenne. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le problème de reproduction des chats, on a un auditeur, Jean, d'ailleurs, qui nous a laissé un message. Il nous a dit déjà, c'est coûteux de stériliser la femelle. Et puis, il y a beaucoup de naissances. Il y a un vrai problème, ça, Christophe, d'après vous?
Oui, réellement. Alors ça, c'est vraiment un gros problème en France. La reproduction du coup des chats errants, du coup des chats libres. Donc ces chats un petit peu craintifs, sauvages, qui sont nés dehors et dont personne, enfin qui n'appartiennent à personne, du coup. J'allais dire dont personne ne s'occupe, mais c'est faux parce que à l'instar de Maria, du coup, avec son association, toutes ces personnes, il y a énormément de personnes qui s'occupent des pères et des mères nourricières, du coup, qui s'occupent de ces animaux au quotidien. Et qu'on peut vraiment féliciter parce que c'est un travail de c'est un gros travail sur le terrain. Concrètement, c'est un vrai problème et c'est amplifié par le fait que les chats de particuliers, les chats domestiques, du coup, ne sont pas stérilisés et participent eux aussi à cette problématique de la prolifération des chats sauvages. On est confronté, bien sûr, à des problématiques, comme le disait Maria, sur des conventions, des subventions des mairies. Normalement, techniquement, le maire est responsable des animaux errants sur sa commune. Et donc, du coup, il doit prouver qu'il a fait des démarches pour essayer de trouver une solution, de solliciter une association de protection animale pour monter une campagne de stérilisation, plutôt que simplement les envoyer en fourrière, parce que concrètement, chaque commune a un contrat de fourrière, mais si vous envoyez les animaux en fourrière, au bout des 10 jours de délai, ces animaux, ils ont de gros risques d'être euthanasiés, étant donné que personne, du coup, ne se manifestera pour eux, et que, étant donné leur caractère craintif ou sauvage, c'est très compliqué par la suite de les replacer.
Je pense que ça ferait l'objet d'une émission entière.
Totalement.
Céline Gardel, pardon, je me perds. J'aimerais aussi qu'on parle d'un volet de votre association qui est de financer du matériel et des soins, d'ailleurs, pour les chiens et les chats en refuge et en détresse.
Oui, tout à fait. Et ça peut aussi parfois financer des stérilisations, quand bien même ce n'est pas notre de nos compétences premières. Mais c'est parfois un frein qui est intéressant parce que du coup, la personne peut le garder. Et juste, oui, pour finir sur ce sujet, en fait, la stérilisation, en effet, est obligatoire que pour les chiens de première catégorie, c'est-à-dire deux molosses qui sont croisés. Et la loi, en effet, ne l'oblige pas pour le reste de la population, contrairement à l'identification qui est plus de 750 euros, en effet. Ouais. Pour revenir, en effet, oui, nous n'avons pas la chance d'avoir au quotidien des animaux, et ce que nous ressortons de maltraitance, ce sont souvent, malheureusement...
Ouais, des tristes événements,
Voilà. Donc oui, on essaye d'aider pour aussi tisser des liens avec les refuges locaux, notamment la TPA, SPA de Toulouse, pour faire des journées main forte, les aider, mais aussi et surtout financer des soins et mobiliser autour d'un projet. Par exemple, dans les écoles aussi, dans les collèges, nous mobilisons et ils ont tous une petite mascotte à chaque classe. Et ils voient donc l'animal avant, après l'opération. C'est plutôt sympa, ça mobilise et ça stimule. Il y a une dynamique qui se crée comme ça. Et ça allie finalement beaucoup de projets.
Et on peut retrouver plus d'informations, Céline, sur votre site internet, lespquatrepatounes.com. On arrive presque à la fin de cette émission et comme presque tous les mercredis dans Je pense donc j'agis, on va parler du patrimoine tout de suite avec notre chroniqueur. Et nous retrouvons Jacques de Chauvelin de la sauvegarde de l'art français. Bonjour Jacques.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous nous emmenez à côté de Nantes.
Oui, aujourd'hui on va dans la commune de Vertou, donc tout juste à côté de Nantes, où avait lieu hier la présentation du résultat d'une restauration d'un ensemble patrimonial plutôt atypique, puisqu'il s'agit de sarcophages mérovingiens en calcaire du Poitou.
Et ces sarcophages datent du début du VIe siècle et sont un véritable trésor pour la commune.
Et pourtant, Melchior, ils étaient complètement oubliés, recouverts de mousse, quasiment invisibles sous les grands cèdres du cimetière du bourg. Et l'impulsion pour permettre de lancer le chantier, elle a été donnée grâce à la campagne Le Plus Grand Musée de France, une campagne citoyenne en faveur du patrimoine dont je vous parle ici depuis quelques temps. Et c'est en 2018 que la sauvegarde de l'art français et la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire se sont associés pour proposer un double challenge à des étudiants de la région, donc Bretagne et Pays de Loire. Ce challenge, d'une part, c'était de repérer des œuvres d'art dans ce qu'on peut appeler une vaste chasse au trésor sur ces deux régions, où les étudiants y partaient en groupe sur les routes pour découvrir des œuvres, cela en allant rencontrer des élus, des professionnels du patrimoine, des passionnés ou des associations. Et dans un second temps de ce challenge, ils étaient amenés, grâce à leurs compétences académiques, à proposer un projet de valorisation du patrimoine autour de la médiation, de la médiatisation, de l'accès aux différents publics. Et en fait, à la clé pour ce groupe d'étudiants qui remportait le challenge, on avait 8000 euros pour soutenir cette restauration.
Et alors pour les sarcophages, ce sont des étudiants de l'école de design de Nantes qui ont bûché sur un projet et qui ont remporté d'ailleurs le challenge.
Voilà, donc pendant plus de 6 mois, ils ont été aidés bien sûr par leurs professeurs, des experts du patrimoine. Et ces étudiants de l'école de design de Nantes, ils se sont penchés sur des projets de mise en valeur des œuvres et la création d'outils pédagogiques, muséographiques même. Et là, ce qu'on avait, c'était vraiment intéressant, parce que c'était des apprentis designers qui ont mis leur savoir-faire au service de la valorisation de ces œuvres et de leur espace, hein, en proposant des initiatives innovantes qui ont charmé le jury de cette première édition du challenge. Et aujourd'hui, ils peuvent vraiment être fiers et voir que leur travail a payé, puisque les sarcophages ont pu être entièrement restaurés.
Et en parallèle, le challenge continue avec d'autres universités, Jacques.
Et oui, là, nous en sommes cette année à la 3e édition de cette campagne du Plus Grand Musée de France en Bretagne et Pays de Loire. Avec cette année, l'Université de Bretagne Sud, donc des étudiants de Lorient et l'Université du Mans. Et je crois que c'est un vrai succès pour tous les acteurs. D'abord les étudiants qui mettent à l'épreuve leur savoir-faire et leurs compétences acquises en cours. Le mécène qui mène ici une action locale qui est très bienvenue, très appréciée des élus et des habitants. Et la sauvegarde de l'art français qui poursuit son action en restaurant toujours plus d'œuvres d'art. Et surtout, là c'est vraiment important pour nous, en engageant des citoyens dans la protection du patrimoine, puisque sans transmission, il n'y a pas de conservation possible.
Eh ben, merci beaucoup, Jacques de Chauvelin. C'était très intéressant et on peut retrouver plus d'informations sur le site de la sauvegarde de l'art français, à retrouver bien sûr sur Internet. Merci beaucoup, Jacques. On arrive à la toute fin de cette émission. Alors, malheureusement, on va pas avoir le temps de passer à un auditeur. C'était Santiago qui voulait vraiment passer et qui voulait évoquer le budget d'un chat ou d'un chien. C'est vrai que les gens ne sont pas conscients de cet aspect avant l'adoption. Christophe, ça rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure.
Oui, ça fait partie des questions qu'il faut bien se poser avant d'adopter un animal, d'avoir une démarche responsable. Après, c'est toujours un petit peu compliqué de le budgéter, mais concrètement, je pense qu'il faut compter, quand on veut nourrir son animal avec une alimentation de qualité, lui offrir ce dont il a besoin, pouvoir répondre à ses besoins d'éducation, de comportement ou autre, je pense qu'on partirait facilement sur 1000 euros pour un chat à l'année et 1500 voire 2000 euros pour un chien à l'année en fonction de son gabarit.
Bon, et permettez-moi, alors c'est pas très professionnel, mais d'avoir une petite pensée pour mon chat qui m'a accompagné pendant 16 ans. C'était un fidèle compagnon que j'aimais beaucoup et qui m'aimait beaucoup. Et alors vraiment, l'amour des animaux, c'est un truc incroyable. Et il est parti il y a quelques mois. Et voilà, c'est très dur de se remettre de la perte d'un animal. Mais je pense beaucoup à ce petit Sirius. Voilà, 16 ans quand même de vie commune. Donc voilà, petite pensée, mais c'est pas très professionnel. Allez, on arrête là cette émission. Merci beaucoup, Christophe Dumont-Richet.
Merci.
D'avoir été avec nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes responsable d'un refuge SPA. C'est à Marennes, Lyon, et on peut retrouver toutes les actions de la SPA sur le site la-spa.fr. Merci, Céline Gardel, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, c'était très agréable l'échange. Et puis merci à Christophe, parce que je pense qu'on a pu aussi discuter tous les trois pendant... toute la journée.
Eh ben, c'était très intéressant. Merci Céline Gardel, capitaine de police et présidente d'une association qui s'appelle Les 4 Patounes, à retrouver sur le site les4patounes.com. Et vous avez également une page Facebook qui est très active. Merci à Pascal, à Catherine qui était ce matin à la réalisation, également à Aurore. Et puis nous, on se retrouve demain de 9h à 11h. Nous serons le 1er décembre et ce sera la journée internationale de lutte contre le sida. Le sida, où est-ce qu'on en est en France en 2022 et comment est-ce que le traitement existe encore et se développe? On en parle demain avec Stéphanie Gallet. Bonne journée à tous.